A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hello à tous, bienvenue pour ce nouvel hors-série Stat avec Monsieur Sbarro qui nous a manqué puisqu'on a zappé Wimbledon 2023, l'US Open pour des calendriers pas forcément synchro. Et nous nous retrouvons pour cet Australian Open 2024. Fab, comment ça va?
Bah, ça va bien, un peu décalé parce que je suis arrivé hier après-midi d'Australie. Donc, réveil à 3h30 du mat ce matin, mais là, je me sens bien. On est le matin encore. On verra cet après-midi, enfin, la fin d'après-midi.
Alors, la chaîne Tennis Légende et puis le podcast ont un peu évolué depuis qu'on s'est vu la dernière fois. Donc, en une minute court, est-ce que tu peux te représenter pour les nouvelles personnes qui arrivent sur ce contenu et qui n'ont pas forcément l'habitude de te voir, contrairement à tous ceux qui connaissent ton accent, ton surnom, ton pédigré, s'il te plaît?
Ah, me représenter.
Ouais, rapidement.
Alors, pour faire bref, bah, dans le cadre de Tennis Légende, j'ai clairement été un expert statistique du Tour, qui a travaillé avec du top 10, top 20, top 50, top 100, top 200. Et voilà, en ce moment, bah, c'est une partie de mon boulot, c'est de faire des prépas de match, des bilans avec la statistique pour des joueurs du Tour. Et l'autre partie de mon job maintenant, c'est d'être le head de la performance d'une agence qui s'appelle Edge. Et cette partie me prend de plus en plus de temps et la partie stats, un peu moins qu'avant. Mais je reste encore, en tout cas aux yeux des gens de Tennis Légende, plutôt l'expert stats. Mais maintenant, mon travail a aussi évolué depuis les premiers podcasts qu'on a fait ensemble.
Je suis certain qu'il y a un paquet de monde qui va être content de te retrouver, puisque je pense que l'Asbar, tu leur as manqué. Ok, alors, pour les nouveaux d'ailleurs, on a un épisode assez complet sur ton parcours qui a évolué depuis, hein, mais on avait fait un épisode de podcast qui avait très bien marché, si vous voulez aller le retrouver. Et on a tourné quelques formations aussi ensemble pour analyser son jeu grâce à la stat. Vous avez d'ailleurs un quiz en lien de ce contenu pour vous permettre de comprendre votre jeu à travers la stat. C'est à peu près, je sais pas, 3 minutes de questions et on vous donne ensuite un débrief à travers ce quiz pour mieux comprendre votre jeu par le prisme de la stat. Voilà. Donc aujourd'hui, on parle de la finale homme principalement,
Alors,
c'est ça?
c'est final, non. Moi, j'ai préparé finale, femme et homme. On commence par les femmes parce qu'on met les femmes à l'honneur.
C'est beau.
Et après, on terminera avec les hommes. Donc, en fait, j'ai analysé les demi-finales et finales du tableau féminin et masculin. Et je vais revenir avec certaines tendances, certaines stats. Et puis voilà, bah, on va parler de ça. Donc, on va parler spécialement donc, de Sabalenka et
ouais,
de Sinner.
Très bien. Donc restez bien avec nous jusqu'au bout, parce que si les femmes ne vous intéressent pas forcément, on n'avance pas, ça peut être très intéressant. Moi par exemple, j'ai fait pas mal de déplacements pour l'agence Edge et je connaissais pas grand chose au tennis féminin avant ça, et je suis arrivé avec beaucoup d'a priori, et c'est vrai que depuis 1 an et demi, 2 ans, où j'ai couvert peut-être une vingtaine de tournois féminins, quand je me promène dans les allées, en fait je m'arrête tellement le bruit est impressionnant, les plans de frappe sont, voilà, le jeu reste impressionnant. J'ai eu la chance de faire sparring avec plusieurs femmes et d'être totalement à la rue, je dois le dire, parce que la qualité de balle est incroyable. Alors après, si on les tricote un petit peu, c'est autre chose, mais ça reste une prouesse que moi je trouve beaucoup plus impressionnante que ce que je croyais au départ. Et puis forcément, lorsqu'on est dans une équipe, bah, émotionnellement, on est très engagé, donc on se prend au jeu et on voit plus le tennis féminin de la même manière. Donc là, ce qu'on vous propose avec Fab, c'est de le comprendre par l'intermédiaire de la stat. Et on a quand même affaire à un ovni, Sabalenka, de l'extérieur, de puissance, de maîtrise, de fraîcheur aussi, parce qu'elle fait du bien, elle est souriante sur les réseaux, elle est décalée, donc c'est chouette. Mais voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, de ton point de vue de statisticien?
Ouais, alors, parce que ce que je vais dire, c'est surtout ce qui ressort de sa demi-finale face à Coco Gauff et sa finale face à Zheng. Donc voilà, après, j'ai aussi un peu comparé les stats que j'en ai tirées par rapport à ces stats générales et je vais arriver avec certaines clés. Donc prenons quelles ont été les trois clés du match, les trois clés des matchs, parce que je prends demi-finale et finale pour cette analyse, de Sabalenka à l'Open d'Australie. Donc son point fort numéro un sur l'Open d'Australie, mais qui correspond aussi à son point fort général, on dira, c'est le premier service. Donc, sur demi-finale et finale, elle a passé 70% de première balle. Donc, 70%, c'est au-dessus de la moyenne. On va dire que la moyenne, c'est 62, 63. On est à 7% au-dessus. Et elle a gagné 78% des points derrière. Et là, on est à peu près 10 à 15% au-dessus de la moyenne. Et son ratio D, cette service gagnant, était de 30%, qui est bien au-dessus de la moyenne. Donc, on est sur une super serveuse. C'est-à-dire, je passe plus de premières que la moyenne. Je fais plus D, ces services gagnants, que la moyenne, et je gagne plus de points que la moyenne.
Incroyable.
Donc, on est sur une, si tu veux, on est sur une top 5 mondiale des meilleures serveuses au monde. Et
T'as les
je
autres ou pas?
les autres, non, je peux t'en deviner quelques-unes. Mais alors, déjà, je vais dire un truc par rapport au jeu féminin. C'est qu'on avait fait à l'époque, j'avais fait à l'époque, je pense que maintenant il y a 3 ans, une recherche qu'est-ce qui différenciait les top 10 WTA du reste des top 100? Quelle était la plus grande différence entre une top 10 et une top 100? Et il s'avère que c'était la qualité du service, premier service. Tout le reste, si on prenait les stats de points gagnés sur deuxième balle, retour de premier service et retour de deuxième service, on avait des stats qui étaient assez proches de la moyenne du top 100. Même pas, mais par contre, en première balle, on avait des stats qui étaient bien au-dessus. Et là, Sabalenka, numéro 2 mondial, on rentre complètement dans cette tendance. Les grosses serveuses, voilà, pour en conclure, c'est que les grosses serveuses du tour ont un énorme avantage pour être top 10.
Alors avant d'aller plus loin, petite précision, elle fait 1,82 m pour 79 kg. Elle a 25 ans, elle est née le 5 mai 98 en Biélorussie, au cas où vous l'aviez oublié. Et elle est numéro 2 mondial malgré son titre. Voilà, juste rapide précision. Donc on est quand même sur une grande tige, n'est-ce pas?
Ouais, exactement, mais elle a défendu ses points parce qu'elle l'avait gagné l'année passée. Donc elle conserve ses 2000 points de son titre. Mais maintenant, elle est quand même très proche. J'ai regardé, bon, elle avait été numéro mondial déjà, mais elle est de nouveau proche de Swiatek. Par contre, tu vois, Swiatek, si on fait juste une petite parenthèse, c'est pas une si grande serveuse que ça, Swiatek. Elle est comme numéro 1. Donc on pourrait me dire, ah, ben, Swiatek, tu viens de dire que toutes les top 10 étaient des grosses serveuses. Swiatek sort un peu de ça. Il y avait aussi une Halep qui sortait de ça. Mais il y a plein de joueuses. Tu prends du Osaka, Pliskova, quand elle était top 10, Kvitova, même Caro Garcia, c'est une très grande serveuse féminine. Donc on est vraiment dans cette tendance. Et j'ai encore oublié de rajouter un truc, c'est que la moyenne de son premier service était à 160. 15 km/h. On a envie de dire plus, on a envie de dire que les femmes servent à 200, mais sa moyenne, après c'est une moyenne, il peut y avoir des pointes à 200, hein, mais c'est une moyenne, et la moyenne du top 100 est à 158, donc elle sert aussi plus fort que la moyenne. Donc on a vraiment tous les éléments d'une grande serveuse, et puis voilà, comme j'ai dit, en ce moment, les top 10, c'est un peu l'arme numéro 1 des top 10. C'est marrant, il y a peu de grandes serveuses qui n'ont pas été top 20 dans
Ok.
l'histoire du tennis.
Ouais.
Il y en a deux, là que j'ai. Il y a Marino, une Canadienne, et la sœur Pliskova, Kristina Gaucher, qui étaient des très très bonnes serveuses les deux et qui ont été entre 50 et 100.
C'est vraiment qu'elle devait pas jouer un gramme.
Non mais c'est ça. Ça veut dire que quand la balle revient, le niveau de jeu, il descend, ouais, il descend de 2-3 étages, quoi. On arrive au sous-sol là même. C'est méchant, mais
C'est dur.
par rapport au niveau du top 100, elles sont vraiment en dessous, quoi. Ont beaucoup de risques, alors tu as l'impression qu'elles sont fortes parce que ça tape fort. C'est souvent la stratégie des grandes serveuses comme des grands serveurs. Ça tape fort derrière, donc tu dis, wow, il y a de l'accélération. Mais quand tu comptes le nombre de fautes directes, ça arrose par moment. C'est pas le plus beau tennis, ouais, c'est pas le plus beau tennis féminin. C'est Nana qui serve très fort et qui tape fort. C'est pas le plus haut.
Déjà que le tennis féminin, on peut avoir du mal à le regarder, alors là, c'est cadeau.
Ouais, bah, imagine quand tu as deux filles. Regarde, par exemple, le bon exemple, le match Osaka-Garcia. J'ai eu un écho. Peut-être c'est toi qui m'as dit. J'ai eu un écho pendant l'Open d'Australie. Un mec m'a dit, mais oh, il n'y avait rien. Il n'y avait aucun échange. Je lui ai dit,
De
frère.
2,9 frappes
Alors, c'est toi.
de moyenne.
Ouais, et c'est exactement ça. Moi, je n'ai pas vu le
Plus
match, mais je m'imagine complètement.
gros rallye de mémoire, je crois que c'était 9 frappes.
Ouais.
Quand on voit derrière nous, on regardait Timofeva, Wozniacki, Il y avait des rallyes de 30 frappes à chaque point au départ. C'était un combat au couteau et puis c'était magnifique. Ça terminait par coup gagnant à chaque fois, quoi. C'était
C'était
dingue.
beau. Mais c'est vrai que tu vois, quand tu prends deux filles, mais même tu mettrais Sabalenka contre Osaka ou Sabalenka contre Garcia, on a les mêmes stats. C'est la stratégie des garçons aussi, mais les filles, surtout des meilleures, c'est d'écourter un maximum pour imposer sa puissance. Ben ça, c'est quelque chose qu'on en reparlera dans le troisième point de Sabalenka. Donc j'avance au deuxième point.
Alors juste
Le
avant
troisième
d'avancer
point.
au deuxième point, tu disais que c'était son deuxième titre du Grand Chelem. Et il y a cette petite histoire, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, où, avec son papa qui lui a conseillé de taper quelques balles pour découvrir le tennis. Il s'était fait la promesse, je crois que c'est elle qui lui avait fait la promesse depuis toute jeune qu'elle gagnerait deux Grands Chelems avant ses 25 ans. Et là donc elle vient de défendre son titre, elle gagne son deuxième Grand Chelem. Et je crois qu'elle a perdu son papa il y a
Ah merde.
quelques temps. Voilà, c'était assez symbolique pour elle de lui rendre hommage en réalisant son rêve et sa sorte d'engagement, tu vois, alors qu'elle l'avait pris quand elle avait peut-être 10 ans, tu vois, un truc comme ça. C'est quand même incroyable d'avoir une projection comme ça, de dire de nulle part, je vais gagner deux grands chelems avant mes 25 ans.
Ah, c'est beau.
Et boum, elle
Bah, ça
défend
me
son
parle parce
titre,
que
c'est
c'est ce
fabuleux.
genre de projection qui te fait avancer de toute façon, hein. Je veux dire, c'est des grandes projections qui te font avancer le plus haut. Imagine déjà à quel point c'est difficile de gagner un grand chelem ou d'être sur le tour ou n'importe quoi si tu n'as pas une grande projection par rapport à ça depuis un jeune âge, tu n'y arrives jamais. Je veux dire, c'est pas, ah ouais, ça me plaît bien le tour. Bah, tu n'y seras pas. Tu vois, je veux dire, tu n'as aucune chance d'y être. Mais autant dans les médias que dans la stat, que dans le coaching, que dans les joueurs, si ce n'est pas un rêve et une ambition profonde, c'est très très compliqué d'arriver. Donc voilà, ça montre une fois de plus les motivations intrinsèques et tout ça.
Elle avait même dit qu'elle deviendrait numéro une mondiale. Donc oui, elle a bien perdu son papa en 2019, elle avait 21 ans. Et elle lui avait dit, je deviendrai numéro une mondiale et je gagnerai deux titres au plus tard à 25 ans. Fabuleux.
Allez. Puis là, je pense qu'elle est bien partie pour en gagner encore quelques-uns. Parce qu'il y a une pression. J'en parlais avec Shane Lianage qui travaille dans les stats dans son équipe et qui m'a dit que après avoir gagné le premier, ça enlève une certaine pression. Et maintenant, elle est plus libre sur le terrain. Elle se sent mieux. Et c'est un sacré bulldozer. Donc, si cette fille, elle se sent bien sur le terrain. Parce qu'avant, le truc de Sabalenka, c'est que tout le monde l'attendait à gagner des grands chelems. Elle te ratait un match par grand chelem.
Ah
D'ailleurs, une
ouais.
fois, elle avait raté un match contre une de mes clientes, mais j'étais super contente. C'était une demi-finale de grand chelem. Et pas qu'elle te rate. C'est pas qu'elle te le rate, en fait. C'est qu'elle peut avoir des côtés émotionnels qui reprenaient le dessus à des moments clés, genre un 4-4, 40-30 pour elle. C'est un exemple hautement faux, hein, mais 4-4, 40-30, elle te fait 3 doubles. C'était un peu ça, la réputation de Sabalenka. C'est qu'à un moment, elle pouvait complètement craquer. Et si maintenant, elle commence à plus craquer avec le tennis qui est là,
C'est chaud.
ça peut être très, très fort.
Ouais. À titre d'exemple, avant que tu nous donnes ton deuxième point et ton troisième, Bastien Fazancani, coach de Panayot Vardy, avec qui je fais un peu de contenu sur la chaîne, a joué Sabalenka premier tour Wimbledon 2023
Oui, c'est
sur le
ça.
central. Et il me disait, Pana qui était quand même 70e mondial à ce moment-là, il nous disait, pour imager le truc, elle n'a pas pris une seule balle devant elle, avec le plan de frappe devant, tellement la puissance d'Aryna Sabalenka l'a dépassée. Voilà, juste pour vous contextualiser l'ovni de puissance qu'elle peut être pour ses adversaires.
Moi, j'ai un autre exemple parce que je travaille avec Marie Bouskova qui l'a joué sur le central à Miami. J'étais super content d'aller sur le central. Je dis, putain, central, Hard Rock Café, Miami central. On joue Sabalenka. Putain, ça a duré 50 minutes. Elle n'a pas vu la balle. C'était que des avions de tous les sens. Elle était voilà, une telle puissance. Puis Bouskova était à l'époque, je crois, entre 25-30 mondiales. Donc c'est meilleur que, entre parenthèses, sans manquer de respect à Udvardi, mais une meilleure joueuse qu'elle. Mais elle s'est fait défoncer de la même manière.
Ah ouais.
Et il n'y avait pas de tennis, quoi.
Elle a
C'est
une
tellement
marge
difficile. Ouais,
incroyable.
parce que. C'est comme, peut-être, quand quelqu'un joue juste plus fort partout et qui t'impose sa puissance, tu n'as jamais le temps d'installer ton jeu. Et une Bouskova qui avait besoin d'installer son jeu, elle n'a pas pu le faire. Et du coup, ça fait un tennis. C'est pas bon, vu que ce n'était pas de mon côté en plus, ce n'est pas exceptionnel à regarder. Ça envoyait des lattes partout. Bouskova ne peut pas se régler. Du coup, elle augmente son ratio de faute direct parce qu'elle doit forcer, elle doit faire des trucs, puis ça fait des matchs à sens unique. Mais voilà, c'est tout à l'honneur de Sabalenka qui dégage voilà, une puissance de malade. Deuxième point, parce que sinon, on ne va jamais y arriver. Non, parce que sinon, déjà, que s'il y a des personnes qui n'aiment pas le tennis féminin, et en plus, on n'arrête pas d'en rajouter, les gars, ils vont devenir dingues,
Alors
quoi.
attends, je t'ai pas dit. Vas-y,
Oui.
recharge.
Alors, deuxième point, donc après le premier service de Sabalenka qui a été sa force numéro un pendant l'Open d'Australie, son deuxième point, ça a été le retour de points gagnés en deuxième service. Retour de deuxième service, points gagnés. Elle a gagné 61% des points sur sa demi-finale et sa finale. Donc, c'est au-dessus de la moyenne, évidemment. C'est grâce à la pression qu'elle met en retour, parce qu'on en parle, elle dégage puissance au service, puissance en retour. C'est-à-dire, je veux t'écraser dès le départ. Je veux pas te laisser exister, en fait. C'est ça un peu le message qui est très fort chez ces joueuses si puissantes. Et ses adversaires, par exemple, j'ai pris une stat, elles ont fait 22% de double faute. C'est-à-dire que ça montre aussi la pression qu'elle te met en retour. Elle te met tellement de pression que toi, tu tremblotes d'un côté, tu dois forcer ta deuxième balle et tu lui donnes encore plus de points. Donc quand tu la mets dedans, elle t'envoie de toute manière une latte en retour. Soit elle le termine tout de suite, soit elle fait la faute, soit elle va gagner en retour plus un, qu'on va aborder dans le troisième point. Soit elle te met aussi une pression et toi, tu fais des doubles fautes. Donc, et j'ai une autre stat. Ses retours sont tapés en moyenne à 122 km/h, alors que la moyenne est de 113, donc plus 9 km/h. C'est après, une fois, je commence à travailler avec les kilomètres-heure depuis fin d'année passée. On parlait de 51, 52%, 53%, que 1% voulait dire beaucoup. Bah, ce que je suis en train d'apprendre, c'est que on pense que c'est que 9 km/h de plus, mais c'est beaucoup, 9 km/h. C'est plus que ce qu'on pense. Parce que c'est clair, si tu prends 9 km/h, ça va pas vite. Mais dans une frappe qui est déjà puissante, ce 9 km/h fait. Bah, voilà. Si tu veux, elle tape que 9 km/h de plus que la moyenne, mais c'est super plus rapide.
Mais je crois même qu'à l'Open Australie, tu me parlais d'une différence de 2 km/h ou 3
Oui.
entre deux joueuses ou deux joueurs.
Oui.
Et déjà, tu me dis que c'était beaucoup sur la
Alors,
longue, sur la durée. Donc 9, ça paraît énorme.
je pense à partir de 3-4, on est déjà dans un changement. Peut-être 1-2, non. Non, faut pas exagérer, parce que si on dit, putain, si 1 km/h de plus, c'est pas genre tu maîtrises tes kilomètres-heure, je vais jouer tout à 100. 100, 100, 100. Tiens,
La
ça
machine.
varie. Ouais. Mais c'est vrai qu'à partir, je pense, de 3-4 km/h, on a déjà une différence. Et même dans un match, si tu as un joueur qui constamment joue 3-4 km/h de plus que l'autre, on voit une différence. C'est-à-dire que nous, notre visuel, il va nous dire, il tape beaucoup plus fort. Mais la réalité, c'est que des fois, beaucoup plus fort, c'est 8-9 km/h de plus. Pas plus, pas 50, tu vois. Parce que le Marseillais dirait, ouais, il jouait 200 km/h plus fort que l'autre. Non, mec, 5 km/h. Mais 5, c'est plus que ce qu'on pense.
Le Suisse, il dirait 4,8.
Je dirais 4,8. Hein. Ça, c'est le jurassien.
4,8.
Alors, troisième point. Donc, on a vu qu'elle domine sur son premier service et sur son retour de deuxième service. Et ces deux dominations lui donnent sa troisième clé du match, on va dire, la troisième clé des matchs. C'est le service plus 1 et retour plus 1. C'est-à-dire que tu as un double avantage, si tu veux, de servir fort et de retourner fort. C'est que, un, tu gagnes directement des points en servant fort ou directement des points en retournant fort ou par les doubles fautes de l'adversaire, comme je viens de te dire. Et en plus, tu te donnes plus d'opportunités d'être fort juste après ton service ou juste après ton retour. Et vraiment, Sabalenka, elle fait la différence en retour plus 1, en retour, service retour, service plus 1, retour plus 1. Et je vais donner des stats des deux matchs. Ça va être intéressant et ça reviendra encore dans l'importance du service plus 1 et du retour plus 1. Elle a gagné 59% de ses points entre une et quatre frappes. Donc, on parle vraiment. Une et quatre frappes, c'est ça, c'est service retour. Service plus 1, retour plus 1. C'est ça, une 4 frappes. Donc 59% des points gagnés. Et par contre, quand le rallye se prolonge, dans les rallyes de plus de 5 frappes, ça veut dire qu'ils ont joué 2 balles chacune, elle est à 49,3% des points gagnés. Donc on est juste en dessous du 50. C'est-à-dire qu'elle a à peine plus perdu de points que gagné quand le rallye commence. Donc ça montre à quel point
Elle est
c'est une
complète.
fille qui s'impose dans les rallyes courts. Mais c'est la même stratégie de Garcia, c'est la même stratégie qu'Osaka, c'est la même stratégie que Pliskova, que Kvitova, que toutes ces joueuses puissantes. C'est-à-dire, je veux te mettre la pression tout de suite et te gagner le plus vite possible. Et
Mais ça veut dire que si tu l'emmènes dans des filières plus longues, elle est moins efficace.
est moins forte. Mais attention, ayant souvent joué ce type de joueuse, les ayant préparé mes athlètes pour les jouer, des fois, tu ne peux pas les emmener dans des rallyes plus longs.
Ouais, c'est ça
Parce que
le
la fille a juste
piège.
décidé que tu n'allais pas jouer.
Ouais.
Si elle décide d'envoyer que des lattes en retour, on peut essayer de faire un peu de variation des zones. Tu vois, si par exemple tu as un service stéréotypé revers et tu sais qu'elle va t'envoyer que des lattes de revers, donc on a des stratégies de faire varier les trois zones, T, corps, XT, pour essayer de les empêcher de te mettre une si grosse pression ou leur faire faire plus de fautes directes. Mais si elle fait plus de fautes directes, ça reste un nombre d'échanges faible. Donc, mais c'est ça qui est intéressant. C'est, par exemple, si nous, on joue un 11 contre elle, contre Sabalenka, en 11, c'est typiquement du plus 5, hein, plus 5 frappes. On ne sert pas en bas. Donc, on est déjà même. Donc, je te dirais même qu'en 11, en termes de stats, ça s'apparente à du plus 8 frappes.
Okay.
Parce que entre 5 et 8 frappes, c'est une zone de rallye que j'analyse. On est souvent sur de la finition de ce qui s'est passé entre une 4 frappes. Par contre, quand tu fais un 11 par en bas, on est dans du plus de 8 frappes. Alors, pour
À
les gens
part
qui font
nous,
des.
on est à plus de 15 frappes tous les deux.
Ouais, non, mais non, ouais. Pour les gens
Surtout
qui font beaucoup de 11, ils entraînent, ils prétendent vouloir s'entraîner au tennis en faisant que des 11 par en bas, ce que je fais, mais je prétends plus vouloir m'améliorer en tant que joueur, ils entraînent que des rallyes de plus de 8 frappes. Et les rallyes de plus de 8 frappes sont en moyenne entre 7 et 15% des rallyes que tu vas jouer dans un match. Donc, si tu veux t'améliorer dans ton tennis en faisant des 11, mais oublie ce que tu connais, c'est à peu près 10% des rallyes que tu vas jouer, même au niveau amateur.
Ah
Donc, ça ne
ouais.
sert à rien si ce n'est de te faire plaisir.
D'accord.
Rien.
Intéressant.
À rien du tout. Non,
Est-ce
mais
que...
si tu compares ça avec du tennis de match, hein, mais
Ouais.
amateur compris, à rien.
Du coup, il faut faire des tie-break, quoi.
Exactement. Fais des tie-break, fais des enchaînements courts, fais des situations où il y en a un qui attaque tout de suite dans l'échange. Le tennis, quand tu y penses, mais même au niveau amateur, c'est court les rallyes. C'est court. À part, tu as deux crocos qui vont une fois te faire un match avec. Attends, les matchs qu'on pense où il y a que des rallyes de deux crocos, ils sont à 25% de rallyes de plus de 8 frappes. 25.
Ah ouais, c'est très
On
peu, ouais.
n'est pas. Ils sont à peu près à 50% des rallyes de plus de 5 frappes. Et à peu près 25%, enfin moitié-moitié.
Est-ce
Alors
que
après. Ouais, excuse.
t'as retrouvé ton cardio ou pas?
Ah, je suis monstrueux là.
Ah, genre!
En plus, je suis en train de faire le montage en ce moment du trip de l'année passée d'Australie. On a joué. Alors attends, je suis à fond dedans là. J'étais sur le Kooyong là. Avant qu'on vienne, j'étais sur Kooyong. J'ai même pas osé mettre la partie où j'ai plus aucun cardio.
Je sais pas si des gens qui écoutent ont vu le vlog de cette année là. D'ailleurs, t'es dedans, Fabrice, si tu l'as pas vu.
J'ai vu la moitié pour le moment.
Ah bah t'es à la fin, t'es à la deuxième moitié.
Ok,
Et
horrible.
j'ai eu la chance de jouer dans un autre club sur gazon, le Yara quelque chose. Et contre un mec qui jouait moins bien que toi, mais qui avait plus de cardio. Donc au final, on a joué plus longtemps. Mais ouais, j'ai fait un petit rappel en disant, ah, j'ai fait deux rappels. En retournant à Couillon, que j'ai reparlé de toi en disant c'était là l'année
J'ai
dernière.
entendu celui-là. Celui-là, je l'ai entendu. Merci pour la petite parenthèse. Petite parenthèse sympa.
Et puis, en allant sur l'autre club, je reparle aussi. Et puis, à la fin, on te voit sur le match de Timofeva avec la tablette
Ah
et les
ouais.
stats. Parce
Non, mais oui.
qu'aujourd'hui, c'est incroyable, le tournoi fournit des tablettes pour avoir les stats en direct, qu'il est possible de communiquer au coach pendant le match et le coach peut
Exactement.
filtrer, éventuellement donner une ou deux infos au joueur ou à la joueuse.
Ce qui est génial, c'est que ça met en avant, ça officialise encore plus nos jobs. Rappelle-toi, comme on en parlait sur les premiers podcasts, on n'était pas, j'étais pas accepté au début, on n'était pas accepté.
Ouais.
2019, on commence à être accepté. 2019, et là, 2024, maintenant, on a une tablette où des gens comme Shane, comme moi, comme Mike James, comme d'autres personnes, mais c'est souvent les trois experts du moment, bah, on peut être là avec la tablette. Et dire des choses. Après, en toute honnêteté, sur l'Open d'Australie, j'ai eu la tablette non-stop. Je ne peux pas te dire que ce que j'ai communiqué au coach a été souvent dit sur le terrain. On a encore une marge par
OK.
rapport à ça. On n'est pas
Ouais.
encore 100% braqué number, chiffre dans le match. Par contre, s'il y a un ou deux trucs vraiment qui ressort, je dirais, écoute, là, je vois vraiment ça. Après, la partie de mon job a été faite, fais ce que tu veux. Mais moi, j'ai fait ma partie. Lui, de savoir comment il le filtre avec son joueur. Mais tout ça pour revenir que c'est super d'être respecter un peu plus et que notre métier est mis en avant. Parce qu'on est dans le
M'étonne.
box, hein, du coup, on est à côté du coach. Donc, ça,
Ouais.
j'ai trouvé sympa aussi. C'est des jolis clins d'œil parce que j'étais souvent dans l'ombre. Et là, ça me met un peu plus en lumière. C'est pas ce que je recherche le plus. Mais quand tu as été non-stop mis dans l'ombre, bah, tu te dis, bah, voilà, on continue d'avancer dans la stat au niveau pro et tant mieux.
Clairement. Alors, Yannick, que nous dit-il?
Non, j'ai pas terminé.
Ah, pétard, on n'a plus que 10 minutes. Va falloir être bon, là.
Mais non.
Si, j'ai un appel à 45. Je peux peut-être décaler de 5 minutes, mais là,
Ah non, non,
faut...
c'est mort, parce que Yannick, là, on est parti. Attends, imagine le temps qu'on a fait pour Sabalenka, le temps qu'il faut qu'on te fasse après.
Ah bah, on fait après, si tu veux. T'es
Ouais, bah
dispo
après.
à 10h?
J'ai un appel avec Shane, là.
De 10h à quelle heure?
Peut-être de 10 à. Dès que je termine avec toi, je regarde avec lui si je peux l'enchaîner tout de suite. Après, on peut recommencer.
Ouais. Bon, alors
Parce
vas-y,
que
on
là.
termine là déjà.
Alors, dis d'ailleurs. Sabalenka. Donc, ce que je trouve génial par rapport à Sabalenka, c'est que c'est le ce qu'elle fait sur un terrain, c'est une optimisation parfaite de qui elle est. Elle est quoi? Joueuse puissante et grande, qui optimise tout en jouant le maximum de rallyes entre une et quatre frappes. Je n'ai pas dit le chiffre avant, mais 70% des rallyes ont été joués entre une et quatre frappes. 70. La moyenne est à 62 chez les femmes, donc on a plus 8%. Mais t'imagines 70, 7 fois sur 10, on est dans boum, 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 terminé.
Rideau.
Et puis et 30% du temps, on est dans du boum, 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 boum. 4-5 frappes, tu vois, 2 frappes par personne, 2-3 frappes par personne. Donc elle a, je trouve qu'elle optimise complètement qui elle est, joueuse puissante, elle met en avant ses forces. Et ça, c'est bien en termes d'optimisation. Après, je fais une dernière parenthèse et j'arrête avec ça. J'ai
Tu nous
beaucoup.
laisses tranquille avec Sabalenka.
Non, mais en plus, non, finalement, c'est cool parce que peut-être ça peut donner. Déjà, un, ça met en valeur les femmes, que je trouve que le tennis féminin est vraiment excellent, de très haut niveau. Et puis, ça joue vraiment bien au tennis. Et puis, deux, c'est tout autant intéressant que les mecs. Bref, donc, dernière parenthèse. C'est un comparatif avec Serena Williams. Donc Serena Williams, je l'ai analysée pendant 14 ans, on dira. Et quand on fait le bilan de tous les matchs que j'ai de Serena, et moi je divise une, deux frappes, trois, quatre frappes, cinq, huit frappes, plus de huit frappes. Serena, dans sa carrière, n'a dominé ses adversaires uniquement entre une, deux frappes.
Wow, incroyable.
Uniquement. Ça veut dire que sur sa carrière jouée entière, quand le rallye commence, là on parle même du service plus un. Hein, à partir de la troisième balle, service 1, retour 2, troisième balle, elle a gagné 50% des points sur sa carrière. 50% gagné, 50% perdu. T'imagines une nana qui a gagné le nombre de grands chelems, 22 ou 23?
C'est hallucinant.
En une, deux frappes. C'est là qu'elle a fait la différence. Ça ne veut pas dire qu'elle ne s'est pas jouée dans les autres rallyes. Mais dans les autres rallyes, elle aurait été 40 mondiales.
C'est
Si tu veux,
dingue.
Serena Williams, quand l'échange commence, elle joue 40 mondiales. Parce que 50% des points, tu as 40 mondiales. Par contre, entre une, deux frappes, elle était numéro 1 mondial, deux mondiales, deux mondiales, avec de l'avance sur la numéro 2. Elle servait aussi bien que Karlovic pour une femme. Et elle mettait en plus une énorme pression en retour. Elle retournait bien. C'est-à-dire que, tu sais, les filles, surtout certaines qui manquent de puissance, qui servent des deuxièmes entre 100 et 130 km/h, elles les défonçaient. Donc
Ah
voilà,
ouais.
refais ce petit parallèle pour terminer pour Sabalenka, qui elle dominait en une quatre frappes, mais c'est vraiment la tendance des top, top joueuses puissantes.
Alors, Serena, 23 grands chelems.
D'accord.
On est bon sur les femmes?
On est plus que bon, on a fait.
Alors,
Puis là, on est, en plus, Sinner, j'en ai pas mal à dire. Hein.
sur les survivants. Oh là, il y a mon chien qui fait n'importe quoi. Sur les survivants qui ont survécu à ce passage du tennis féminin, mettez-nous un petit commentaire. Mettez en commentaire Fabrice Barrault et le Georges Clounet de la stat.
Allez,
Ça. On
j'ai pas
pourra se
encore tous
rendre,
les cheveux gris, mais ça arrive
on
dans deux
pourra,
ans.
ça on pourra se rendre compte de qui est encore là, qui n'est plus là.
Ouais, bah,
Merci.
surtout passer, quoi. Si ça vous intéresse pas, il faut dire à quelle minute on commence les mecs, puis aller sur les mecs, puis cassez-nous pas les couilles, quoi. C'est pas grave, si vous n'aimez pas les nanas, vous n'aimez pas les
Vénère.
nanas. Moi, nous, on aime bien avec Max, alors voilà. Alors, Max, il
Alors,
n'aimait même pas avant, il a dit. On
moi
kiffe.
j'ai appris à aimer, mais parce que
Exactement.
j'ai un côté émotionnel maintenant en ayant travaillé avec les joueuses de Edge, je me sens un peu attaché parce que j'ai vécu des trucs avec elle. Mais en vrai de vrai, tu me dis, on va voir du tennis féminin, je te dis non, à part
Non.
Diane Parry, évidemment.
Non.
19 ans, putain,
Alors,
quoi.
encore une autre parenthèse par rapport à ça, entre voir un match de femmes à la télévision ou en vrai, ça te
Oui,
change.
et c'est encore différent, ouais, c'est vrai.
Et puis, quand tu es sur un grand chelem où, sans être méchant, mais tu sais que tu vas aller voir des mecs derrière, de voir deux, trois matchs de filles, ça passe vraiment bien. C'est pour ça que le master de fin d'année, il devrait tellement le faire hommes et femmes ensemble. C'est un
Clair.
désastre, le féminin. Il n'y a
Ouais.
personne.
Ouais.
Il n'y a personne.
Ouais.
À la télé. Par contre, tu mets comme match d'introduction un match de femmes suivi d'un match d'hommes. Tout le monde kifferait le tennis féminin. Par contre, si tu dois aller que voir du tennis féminin, c'est vrai que voilà, le master, c'est juste c'est les chiffres qui confirment. Tu as très peu de personnes.
C'est très bien vu, ça, de les mettre ensemble. Ouais.
Ce serait, mais après, c'est l'ATP et la WTA qui sont
Entités différentes, ouais.
deux entreprises différentes. Mais ce serait, en tout cas pour le tennis féminin, ce serait très très bien. Alors, tennis masculin, non, parce qu'il est populaire. Beaucoup de gens ont envie de venir voir.
C'est parti pour cette deuxième partie, justement, avec ton grand copain Yannick Sinner, le Carota Boy. Est-ce que tu as toi aussi un petit déguisement de Carota Boy chez toi que t'enfiles pour les victoires de Yannick?
Ouais, secret. Secret, je le fais en secret. Je dors avec quand il gagne. C'est un pyjama, carotte.
T'es au-dessus, toi. T'enfiles ton pyjama carotte et tu vas à couche, comme disent les
Ouais,
Suisses.
oui, c'est pas les Suisses qui disent ça, c'est que nous, dans notre famille. C'est une
Ah
famille de Suisses qui disent à couche, c'est ça. Personne ne dit ça en Suisse, c'est juste un délire qu'on a. Donc, Sinner, Djokovic. Donc, moi, j'ai analysé la demi-finale et la finale, et cette fois, je vais les analyser séparément.
OK.
Donc, et quelles ont été les clés du match chaque fois. Est-ce que je peux commencer ou tu voulais encore parler de la carotte?
Je pense que tu peux y aller aisément.
Donc, Sinner Djokovic, demi-finale d'Open d'Australie, la première clé du match, c'est le revers et retour de revers de Djoko qui l'a lâché. Ça, c'est la première clé du match. Sur ce match, il y a eu 36 fautes directes de Djokovic en revers contre 18 pour Sinner, soit deux fois moins. Donc, après, j'ai comparé ça avec la moyenne de Djoko. C'est-à-dire que Djoko, en moyenne, par rapport à sa moyenne générale, il a fait deux fois plus de fautes directes en revers. Et il en a fait en plus dans ce match deux fois moins que Sinner. Et c'est la clé numéro un. Quand Djokovic joue un revers croisé, il a gagné 38% des points, ce qu'on appelle le success ratio après avoir joué un revers croisé de 38, contre 57% pour Sinner. Donc le match, la clé numéro un du match, c'est clairement le revers. Et surtout, l'efficacité personnelle de Djoko en revers. Il a vraiment moins bien joué en revers que son niveau moyen. Après, alors, oui, puis après, je mets encore une parenthèse là-dessus.
Ouais.
Tu te rappelles, on a déjà parlé les deux des fluctuations, parce que moi, j'aime les fluctuations.
Alors,
Fluctuation, je réexplique.
voilà, merci.
Alors, la fluctuation, c'est on compare, je fais deux bilans d'un joueur. Je fais le bilan d'un joueur quand il gagne ses matchs et un bilan d'un joueur quand il perd ses matchs. Donc tous les matchs gagnés dans un bilan, tous les matchs perdus dans un autre bilan. Et ensuite, je compare les efficacités de chaque coup. Et j'en ressors quelle est la fluctuation numéro 1. Ça veut dire quel est le coup qui change le plus entre une victoire.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Et une défaite. Et il s'avère que Djokovic, une de ses plus grandes fluctuations, c'est son nombre de fautes directes en revers. Et là, bim, on est en plein dedans. Et d'ailleurs, quand j'ai préparé des matchs contre Djokovic, parce que ça m'est arrivé souvent avec des joueurs différents, d'ailleurs pas que un, mais trois ou quatre joueurs différents, et même, des fois, on l'a même battu, des fois, avec les clients avec qui je travaillais,
Allez.
et là, je leur disais, il faut aller plus sur son revers. Alors que tout le monde pense que le revers de Djokovic, non. Mais quand
C'est
il
vrai.
perd ce match, il le perd souvent en revers. Et le match contre Sinner, c'est un très bon exemple où les stats nous montrent qu'il a perdu ce match en numéro 1, donc la clé numéro 1, en revers. Donc le revers de Djoko, quand il est dans un mauvais jour, c'est beaucoup de fautes directes. Et là, le match contre Sinner, on est en plein dedans.
Alors, ouais, je suis... J'adore ton point de vue stat, ton analyse, et voilà. Mais je sais que tu es également un grand sensible qui a une intuition aiguisée. Et j'aimerais avoir quand même ton ressenti sur le fait qu'il ait dit j'ai pas fait un si mauvais match en Grand Chelem depuis la nuit des temps. C'est un mec qui est capable de gagner même quand il joue mal parce qu'il a les ressources mentales, qu'il se bat et qu'il a un niveau de jeu moyen au-dessus des autres. C'est quoi, toi, ton retour là-dessus, qui est peut-être moins explicable avec les chiffres, mais
Oui.
peut-être avec l'expérience de le côtoyer depuis longtemps, de le ressentir, de ressentir l'évolution du circuit et de ressentir aussi de la prestation de Sinner en face, qui est
Ouais.
pas pour rien non plus.
Donc, évidemment, il y a un Sinner en face qui a un niveau de jeu moyen, tu vois, comme on en parle. Proche du sien maintenant. Ça, c'est une réalité. On est un peu dans des joueurs qui ont un peu quand une filière assez semblable, ça tape fort des deux côtés, ça joue proche de la ligne. Après, qu'il n'ait pas ça à côté de son match, c'est une vérité. Il faut, et puis, toi, que je me détache de la stat ou pas, on le voit. Et quand tu fais autant de faux directs, c'est qu'il n'était pas dedans, il était peut-être pris par l'enjeu. Je ne sais pas après ce qui s'est passé dans sa tête, quoi. Et quand tu dis, ouais, des fois, il a les ressources nécessaires quand des joueurs, peut-être, qui sont un peu moins bons que ce qu'a proposé Sinner. Il ne faut pas oublier que Sinner n'a pas perdu un set avant d'arriver en demi-finale. Donc, on parlait d'un Sinner qui avait un niveau de jeu moyen de Djokovic, finalement. Et si Djoko passe un peu à pas à côté, c'est pris, je crois, 6-1-6, 6-1-6-2 dans les deux premiers sets. Ça montre que le Sinner, il était déjà à un niveau moyen élevé. Et que Djoko devait faire un bon match. Il ne pouvait pas se permettre. Parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de matchs de Djoko où il était mené 2-7-0, puis il revient, où il passe à côté. Mais c'était des joueurs qui n'étaient pas du même calibre. Ou le plus souvent, hein.
Et t'as la stat de différence de kilomètre-heure entre les deux ou pas? Parce qu'on a l'impression que Jannik déploie plus de puissance qu'un Novak.
Bah non, je l'ai pas. J'aurais pu l'avoir, mais là je l'ai pas, puis j'arrive pas à l'avoir hélas tout de suite.
Bon,
Mince.
dommage.
Mais ouais, non. Mais de nouveau, ça peut être une différence de 2-3 km heure, c'est possible.
Tu penses,
Mais
ouais?
oui. Mais il faut que je vérifie, puis des fois on peut être étonné. Des fois, c'est pas tout le temps ça non plus.
Et si c'est 3 km heure, est-ce que ça fait une diff sur la durée du match ou pas tant que ça?
Ah, je sais pas. Bah, on en parlera des kilomètres. Après, je fais une parenthèse, mais on en parlera des kilomètres heure dans le match contre Medvedev. Parce que là, j'en ai. Donc, celui de
Ok.
Djokovic, je les ai pas, hélas. Donc, peut-être il y a eu, mais je peux pas le confirmer là. Deuxième, est-ce que je peux aller à la deuxième? Désolé de pas avoir. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je suis pas
Ok,
sûr.
aucun problème. Bah ouais, très bien.
Alors, la deuxième clé du match entre Sinner et Djokovic, c'est que Djoko a été dominé au service, donc par le nombre des 7 services gagnants. Il en a fait 22 dans le match face à 30 pour Sinner. Là, dans ce match, je suis vraiment dans de la fluctuation. Et là, je renote une double fluctuation au service. Attention, donc vous avez déjà compris la définition de fluctuation.
On est bon.
Donc, une des plus grandes fluctuations de Djokovic, quand il perd ses matchs, c'est quand il joue des joueurs qui servent mieux que la moyenne. C'est-à-dire qu'on a une différence, si tu veux, quand Djoko gagne ou perd ses matchs, ses adversaires font en moyenne 30% plus d'essais de service gagnant quand il perd. Ça veut C'est-à-dire, soit ils ont mieux servi, tout simplement, soit c'est en moyenne des meilleurs serveurs. Et je me rappelle que quand Federer battait Djoko, bah, c'était qu'il l'avait énormément dominé au service. Parce que quand l'échange commençait, Federer, il était moins fort que Djoko. Donc, tu vois, on retrouve cette tendance que Sinner a mieux servi que Djoko. Et il avait besoin de ça. Et quand je dis que c'est une double fluctuation, c'est que quand on prend les fluctuations de Sinner, Sinner a besoin de son service pour gagner. Et on en reparlera après pour la finale. Donc là, quand on fait la comparaison des services de Djoko et de Sinner, donc il a fait 8 points de plus et on rentre dans cette double fluctuation. Djoko a besoin et perd souvent contre des bons serveurs et Sinner a besoin de bien servir pour gagner. Et c'est ce qui s'est produit dans ce match. Donc là, on a vraiment les deux clés du match qui sont cette qualité en revers qui a été en dessous, surtout chez Djokovic. Ce n'est pas Sinner qui a été au-dessus, c'est vraiment Djoko qui a été en dessous. Et la deuxième clé du match, c'est Sinner sert bien. Il était dans un bon jour au service. Et il a besoin de ça pour gagner. Et Djoko, pour perdre, a besoin de grands serveurs en face de lui. Donc là, on avait vraiment toutes les fluctuations qui ressortaient. J'ai trouvé super intéressant parce que pas tous les matchs peuvent être expliqués de cette manière par la fluctuation. Mais celui-là, ça tombait pile dans les chiffres que j'ai des fluctuations. Et ça met en avant aussi l'importance des fluctuations pour de la stratégie. Pour de la stratégie. Et
Alors,
dernière clé.
ok.
Dernière clé du match, c'était de nouveau, je prends les rallyes, le nombre de frappes, et Sinner a gagné 65% des rallyes entre une et quatre frappes, et dans les rallyes de plus de cinq frappes, il n'en a gagné que 48. Et là, on refait en parallèle par rapport à Sabalenka, on revoit de nouveau l'importance des rallyes courts dans un match de tennis. Si tu veux, quand l'échange a commencé, Sinner a été dominé. Il a gagné que légèrement dominé. Hein. Il a gagné que 48% des points. Et la différence, il l'a fait parce qu'il a mieux servi. Donc, on parlait juste avant, clé du match numéro 2, l'efficacité au service. Et parce qu'il a mieux servi, il avait plus de balles faciles pour directement attaquer. Et au même moment, Djokovic, qui a été moins bon en revers, a fait aussi beaucoup de fautes d'entrée de rallye avec son revers. Et la finalité, Sinner gagne vraiment ce match entre une et quatre frappes, qui est la tendance du tennis moderne.
Merci pour cette analyse, Monsieur Sbarro. Moi, j'ai une interrogation. J'en ai parlé en intro. Pour les gens qui veulent mieux comprendre leur style de jeu grâce à la stat, on a un quiz et on a aussi quatre clés de statisticien en lien gratuit. Mais si on veut comprendre nos propres fluctuations dans notre jeu à nous, est-ce qu'à travers les outils qu'on a mis à dispo dans les formations, on peut le voir ou c'est trop subtil? Comment ça marche?
Il n'y a pas, oui, on peut, parce que tu vois, par exemple, quand on a fait cette formation où tu dois faire tes propres stats, ben, et puis on fait aussi un bilan dans ces propres stats, tu n'as qu'à faire un bilan de tous tes matchs gagnés, un bilan de tous tes matchs perdus, et tu compares chaque stat, et tu vois exactement quand tu perds ton match, qu'est-ce qui ne va pas.
C'est là où ça fluctue?
Exactement.
Ok,
Voilà,
got
parce
it.
que c'est pas si grave, tu fais, disons, prenons les quatre stats de base, pourcentage de points gagnés en première balle, deuxième balle, retour de première balle, retour de deuxième. Alors, je ne sais pas si on a ça en plus dans la formation. Parce que la formation, on a vraiment une fluctuation des coups. Tu vois, on a une fluctuation plus précise. Donc, tu verras ton ratio de points gagnés avec chaque coup. Et si tu vois que, par exemple, dans tes victoires, je dis n'importe quoi comme chiffre, tu as fait 20% de points en coup droit. Dans tes défaites, tu n'en as fait que 10. Ça fait diviser par 2. Et si, par exemple, dans les mêmes fluctuations, dans les mêmes comparaisons, tu vois que ton nombre de fautes en revers et de points en revers est exactement la même, ou fluctue très peu, bah tu peux dire, voilà, moi, quand je ne peux pas imposer mon coup droit, je perds mes matchs. C'est ça ce qui veut dire en moyenne. Et après, tu dois l'expliquer, pourquoi tu ne peux pas imposer ton coup droit? Est-ce que le mec en face jouait plus vite? Est-ce que c'est toi qui étais dans un mauvais jour? Est-ce que c'est parce que tu peux imposer quand tu as plus de temps sur terre battue ton coup droit, mais sur surface plus rapide, ta préparation est trop grande? Après, c'est à toi de trouver les réponses. Mais c'est cool dès qu'on puisse pointer tes propres fluctuations. Donc, je répète, vraiment, si quelqu'un veut faire ses propres fluctuations et qu'il a la formation de faire ses stats lui-même, un bilan des matchs gagnés, un bilan des matchs perdus, et tu scrutes les chiffres. Et tu vas les trouver. Et ça, c'est super intéressant. J'ai deux, trois coachs qui marchent vraiment sur la fluctuation. Ils
D'accord.
adorent ça. Pour eux, c'est les points clés du jeu. Par exemple, Lionel Grossenbacher de Edge, entraîneur physique et entraîneur tennis, lui, la fluctuation, ça lui parle tout le temps. Ce qui me dit, bah là, je trouve les points, les limites de mon joueur, où c'est on sait qu'on doit le rendre meilleur. Donc lui, ça le parle. Et moi,
OK.
je trouve super intéressant pour de la stratégie, plus que pour l'optimisation du joueur.
Got it. Est-ce que
Oui,
nous passerions pas à la finale homme de l'Australian Open
yes.
2024?
On va
Oh.
passer à la finale. Et juste avant qu'on passe à la finale, je vais relire mes petites notes pour essayer d'être fluide.
Et non pas fluctuant.
Maintenant, nous pouvons attaquer la troisième et dernière partie de notre podcast avec la finale de Sinner face à Medvedev. Et pour cette finale, j'ai fait une comparaison entre les deux premiers sets et les trois derniers. Parce que vraiment, il y a eu un changement de dynamique. Bah d'ailleurs, pour ceux qui ont vu le match, dès la fin du deuxième, on voit que le changement de dynamique a commencé. Quand il break une fois. Et même, je crois qu'il est proche, si je me rappelle bien, il a deux balles pour revenir à 5-5 et il ne les fait pas. Mais là, on est déjà en train de changer la dynamique du match où Sinner est en train de venir de rentrer dans sa finale parce qu'en début de match, il est un peu passé à côté et Medvedev a très bien joué et progressivement, ça tourne. Et à partir du troisième, Sinner est peut-être légèrement meilleur, mais à 4-4. Égalité. Medvedev fait cette faute en coup droit en retour plus 1. Et là, il perd le match, hein, si on le prend dans sa globalité. Mais le match est en train de tourner déjà à la fin du deuxième set, la dynamique. Et finalement, bing, après, quand Sinner gagne le troisième match, moi, je pense que ça va être dur pour Daniil de gagner.
Le
Donc,
troisième set, ouais, tu veux dire.
ouais, pardon, excuse-moi, quand il gagne le troisième set, exactement.
C'est vrai qu'on a fait un débrief avec Ralph Bogossian, prépa physique slash entraîneur de tennis, et il disait qu'à selon lui, le match était joué à 6. Le premier set, ça fait combien? 6-3?
6-3.
À 6-3, 5-1. Là, il débreak une première fois, alors que Daniil peut tuer le deuxième
Ouais.
set et partir sur une dynamique plus fluide, peut-être début de
Ouais.
troisième. Et finalement, ça fait quoi? Ça fait 6-3 au deuxième aussi, ou
Ouais, c'est
6-4?
6-3. Mais
6-3. Mais on sent que ça tourne, comme tu dis.
le break à 5-1, si je me rappelle aussi, il le donne un peu. C'est pas un break où on peut pas encore se dire que Sinner est dedans. Mais c'est en train de monter. Par contre, quand Sinner, après, il fait le 5-3, il a la balle de break, là, il est en train de monter de niveau, là. Et on
Ouais.
voit d'entrée de troisième set, par contre, il gagne beaucoup plus facilement ses jeux de service. On rentre dans un vrai match. Alors que les deux premiers, c'était un peu à sens unique. Donc voilà. Comparaison entre le premier et le deuxième set et le troisième, quatrième et cinquième set. Donc la plus grande différence entre dans les performances entre ces deux séquences, comment on va appeler ça, ces deux parties, dans ces deux parties de match, c'est que Sinner, dans la deuxième partie du match, fait trois fois plus de points en coup droit. Trois fois plus. Sinner, au début, il faisait moins de points en coup droit que Daniil. Daniil est un joueur défensif. Et Sinner, on oublie un peu, mais sa force, c'est plus son coup droit que son revers. Même s'il a battu Djoko en revers, sa force, c'est service et coup droit.
Ceci dit, la donnée est peut-être un petit peu modifiée sur les deux premiers sets parce que Daniil était beaucoup plus conquérant, beaucoup plus
Ouais,
offensif
on
que
y
sur ses
vient.
autres matchs, quoi.
Aussi, mais il a été plus conquérant, plus agressif dans des rallyes qui étaient longs.
Ok.
C'était pas dans des rallyes, il n'était pas plus agressif en service plus 1. Il l'a
D'accord.
été de temps en temps quand il avait l'opportunité, mais c'était pas un trait. Moi, j'ai ce souvenir encore de. Comme ça, je te parle en tant que coach qui a vu le match. C'est dans les rallyes de plus de 8 frappes, il a fait souvent la différence avec un coup droit. Il en a tapé beaucoup avant. C'était pas service, coup droit. C'était plutôt service, je fais du rallye et après je trouve une ouverture et là je prends un peu plus de risques. Donc, Sinner fait trois fois plus de points en coup droit. Et là, on a noté les kilomètres heure par set. Il était en moyenne à 121 km heure en coup droit sur le premier et le deuxième set, et il est passé à 131 km heure dans le 3, 4 et 5e. Donc on a une augmentation de 10 km heure chez Sinner en coup droit. Donc Sinner, progressivement, en se mettant dedans, tape plus fort, ou en ajustant, en se disant, voilà, maintenant j'ai plus rien. Je ne sais pas après ce qui s'est passé dans sa tête, pourquoi il augmente de 10. Est-ce que parce qu'il s'est senti mieux, parce qu'on lui a dit que stratégiquement, il prenait pas assez de risques? On ne sait pas. Mais c'est un fait qu'il a
La
augmenté
tablette.
de 10. Hein?
La tablette.
Ouais. Et la tablette, peut-être. Après, je n'ai pas eu l'impression que Vagnozzi et que Cahill la regardaient beaucoup hein, pendant le match. Mais who
Ah
knows?
ouais.
Et
Ouais.
évidemment, c'est la tablette. Évidemment, c'est la stat. Évidemment. On ne saura pas. Après, pendant que lui fait trois fois plus de points en coup droit, on a Medvedev qui, dans l'ensemble, fait 2,5 fois moins de points en coup droit et en revers. Donc, ce Medvedev conquérant, il est commencé à devenir de plus en plus passif. Alors, après, tu vois, après, c'est les deux. Il y a les deux tendances qui peuvent. J'explique. C'est parce que Sinner devient plus agressif, bah, du coup, Medvedev devient plus Medvedev, ce qu'il est déjà à la base, plus défensif. Ou c'est parce que Medvedev avait beaucoup moins de jus qu'il a donné l'opportunité à Sinner d'être plus agressif. Et moi, je pense que la vérité se trouve dans un mix des deux.
Yes.
Sinner augmente son niveau de jeu, Daniil, en train de souffrir physiquement, descend, ce qui nous fait cette différence de 10 km heure, qui en plus, derrière, fait que Medvedev a moins d'opportunités de gagner les points parce qu'il a moins de jus et l'autre lui met plus de pression. Et après, c'est un vase communicant. Donc c'est ça que je trouve assez intéressant. Et après, aussi, la deuxième plus grande différence entre la première et la deuxième partie du match, c'est que Sinner fait deux fois plus d'aces et de services gagnants à partir du troisième set. Et on en a parlé juste avant pour la demi-finale. Quelle est la fluctuation la plus importante, ou une des fluctuations les plus importantes dans le jeu de Sinner? C'est son ratio d'aces et de services gagnants. Et là, même à l'intérieur du match, on peut voir que premier et deuxième set, il en a fait très peu. Et il a doublé son nombre d'aces et de services gagnants à partir du troisième set.
Ça, c'est
Et
fou, c'est du relâchement parce que c'est pas inhérent à Daniil, quoi, tu vois. Il s'est
c'est
un
du
peu
relâchement.
relâché, il envoyait mieux le bras avec 10 km heure de plus. Et derrière, il a trouvé ses zones et pareil, sa puissance peut-être au service.
Ouais, j'ai pas les kilomètres, mais je pense que c'est exactement ça. C'est qu'il a commencé à se décrisper et puis tu vois, mais c'est là qu'on voit quelques kilomètres heure, qu'est-ce que ça fait comme différence? Tu dis,
Ouais.
il trouve peut-être mieux ses zones. Je pense aussi que, tu sais, que Daniil, dans ce match, il a opté pour une position en retour beaucoup plus proche de sa ligne de fond que d'habitude. D'habitude, Daniil, il est loin du terrain. Et j'ai
Ouais.
trouvé ça aussi très intéressant. Qui te dit que cette position de début de match n'a pas non plus déstabilisé Sinner, qui s'attendait à autre chose et qui l'a fait aussi moins bien servir, elle a peut-être fait se crisper? Parce qu'il ne s'attendait peut-être pas à avoir Medvedev en retour de première et deuxième balle si proche de sa ligne de fond. Ça, c'est aussi un truc qui était intéressant. Je ne saurais pas, on ne saura pas la réponse, mais c'est aussi intéressant. Mais après, il s'est réglé et il est devenu très efficace au service.
Oula, le son a...
Donc,
C'est bon.
c'est bon, c'est les deux clés.
Et alors, juste avant d'aller plus loin, t'étais pour qui, toi?
Les deux. Alors, j'étais pour Daniil, pour Gilles, pour le coach avec qui j'ai travaillé pendant quasi 3 ans.
Ouais.
Donc, évidemment que j'étais pour Gilles, parce que par rapport à Gilles, tu vois,
Ah, bien
je
sûr.
voulais qu'il gagne. Et après, j'étais aussi pour Sinner, parce que je me dis, bah, par rapport pour le tennis mondial, d'avoir un Sinner qui gagne son premier Grand Chelem et qui peut nous faire peut-être une rivalité avec un Alcaraz, c'est bon pour le tennis. Et j'ai plus d'affinité, malgré tout, avec un Sinner qu'avec un Medvedev, en
Ok.
termes de joueur. J'aime
Ouais.
le style de jeu. Non, j'aime pas le style de jeu. J'aime mieux la personnalité.
Yes.
J'aime bien l'humilité de Sinner. Après, mais Daniil, à sa manière, je le trouve quand même magique. Je l'aime
Il est
bien aussi.
génial. Ouais, il est
Non,
génial.
et puis même de plus en plus. Quoi. Donc c'est faux. Mais alors peut-être non, c'est faux l'argument. C'est que la personnalité, j'aime autant l'un que l'autre. Et le style de jeu, j'aime aussi autant l'un que l'autre. J'ai peut-être préféré Sinner dans le sens que pour la dynamique du tennis mondial, c'est bien d'avoir un nouveau mec, un nouveau jeune qui gagne. Parce que tu sais, on a un peu peur sur l'ATP. Voilà, on a une génération entre le Big Four qu'on a connu et peut-être Alcaraz Sinner qui vendait pas 100% du rêve, quoi.
Ouais.
Tsitsipas, Zverev, Medvedev, Rune, Rude. Bah, Rune, il est encore compté dans les jeunes. Donc, j'enlève, mais franchement, mais c'est peut-être même Medvedev le plus charismatique de eux, de ce groupe. Mais un Zverev, un Tsitsipas, je sais
Ouais.
pas, ils ne vendent pas du rêve, quoi. Ils ne font pas
Ouais.
rêver le tennis, alors qu'un
Alca
Sinner,
Car
il a le
Carlos,
potentiel.
Carlos Alcaraz est sympa, il est agréable quand même.
Oui, mais Alcaraz, il correspond à cette nouvelle génération avec
Ouais.
Sinner. Donc, tu vois, d'amener une nouvelle génération de jeunes qui ont moins de 23 ans, pour ça, je voulais que Sinner gagne. Je voulais qu'il gagne ce Grand Chelem. Bah, j'étais pour lui parce que qu'il amène une nouvelle dynamique et que Alcaraz ne se trouve pas non plus seul à dominer le tennis après le Big Four. Donc là, j'ai bien aimé. Par contre, après, pour certes d'autres émotions, tu as bien compris que je voulais aussi que Medvedev gagne. Donc j'étais pris. Donc finalement, j'étais neutre. J'étais pour personne. Donc zéro émotion.
Et juste avant de poursuivre aussi, comme Daniel, on l'attendait pas forcément en finale. Est-ce que tu hallucines quand tu vois Gilles en finale dans le box te dire, les mecs sont encore là, ça a bien bossé, c'est fort, c'est un peu un miracle qu'il soit là, il revient 2 fois de 2-7-0. Comment tu le perçois de ton œil d'expert qui les côtoie toute l'année, quoi?
Moi, ce que j'ai remarqué surtout, c'est que qu'est-ce que c'est un combattant, ce Daniil?
Ouais.
Il lâche rien, c'est magnifique. C'est plutôt ça que j'ai retenu, je te dirais, plutôt que peut-être Gilles. Là, j'ai retenu l'athlète, quoi. C'est admirable, quoi.
C'est
Le
clair.
mec, c'est un top dans sa tête, c'est un top de top de top. Il ne te donnera pas un match, quoi.
Ah, c'est fou,
Et
hein.
puis il s'est accroché avec Sinner, même si on pensait qu'à partir du 3-4e set, il commençait à dominer. Putain, il s'est encore battu, mais il était lui diminué physiquement, mais il s'est battu comme un chien, quoi. Et le nombre de personnes qui auraient lâché. Mais déjà au deuxième tour, au troisième, et tu vois, c'est là la différence. Enfin, c'est là où j'ai pris conscience, une fois de plus, la différence entre les champions et le reste. Et tout joueur basique du top 100 aurait lâché. Mais Daniil, par sa persévérance, il se fait une finale de Grand Chelem que peut-être personne n'aurait fait si pas aussi fort que lui mentalement. Donc
C'est
c'est ça
beau.
plutôt que j'ai retenu
Ouais.
sur ce côté.
Rusuvori, il termine à 3h40 du match, je crois, un truc
Ouais.
comme ça. Enfin, une dinguerie, quoi.
J'ai aussi trouvé que le boxe, ils étaient plus expressifs. Et ça m'a fait aussi plaisir.
Ah ouais, il se lâche un peu plus les
D'habitude, on
mecs.
voit quand même Gilles et la team assez fermés, assez concentrés. Et là, il y a eu des fins de match où ça faisait des gestes, ça faisait des trucs, c'était plus émotionnel. Et ça m'a fait plaisir par rapport à ça. Parce que quand tu es dans le boxe, tu as envie de vivre le match aussi. Tu sais,
Ouais.
là que je l'ai été aussi beaucoup plus pendant cet Open d'Australie avec toutes les équipes avec qui je travaille, tu es là pour te lever, tu es là pour serrer du poing, tu es là pour des fois crier come on. Ça fait partie du folklore d'un match sur un grand terrain. Tu le vis et c'est merveilleux. Et j'étais content pour. Content pour, je ne sais pas si je suis content pour Gilles, mais je trouvais cool qu'il y avait des émotions qui ressortaient, alors que j'en ai pas vu si souvent que ça, des émotions. Et ça m'a fait plaisir de dire, voilà, il s'exprime plus. Peut-être Daniil les laisse s'exprimer un peu plus. Ça, je ne sais pas, hein, je ne connais pas à l'intérieur ce qui se passe, mais j'ai vu une différence par rapport à ça. Et
Okay.
j'ai trouvé positif. Donc voilà les deux choses que j'ai vues d'extérieur.
Alright,
Je
où est-ce
termine
que...
avec les clés du match, hein.
Allez, on y va.
Donc les deux clés du match pour terminer ce Sinner-Medvedev. Première clé du match, c'est le nombre de points en coup droit. 30 points en coup droit, donc points provoqués plus winner pour Sinner face à 20 pour Medvedev. Et deuxième clé du match, l'efficacité en première balle et en deuxième balle. Donc sur la première partie, il avait gagné 62% des points sur sa première balle, Sinner. Deuxième partie, 82. Et ça fait 74% des points gagnés. Donc ça, c'était grande différence entre les deux parties du match, mais 74, c'est un très bon chiffre. Et pourcentage de points gagnés sur deuxième balle, 54. Avec première partie du match, 40% des points gagnés et 65% des points gagnés sur la deuxième partie. Donc voilà les deux clés du match. En passant, je fais une petite parenthèse. Je remercie aussi Jeune Guillaume parce que c'est lui qui a analysé la majorité des matchs qui ont été faits pour présenter ce podcast. Et voilà,
Guillaume Blériot qui est dans ton équipe du coup depuis presque un an, non?
Exactement, ouais, qui est dans l'équipe, dans mon équipe depuis un an. Et il me stat beaucoup de matchs et c'est aussi grâce à lui que j'ai pu faire ce podcast parce que je t'avouerais que j'ai beaucoup moins de temps pour stater tous les matchs. Et pour faire un podcast de qualité, j'avais besoin de données et je suis bien content qu'il m'ait aidé sur ce match. Moi, j'ai analysé que la finale Sinner-Medvedev. Après, je fais que l'interprétation de chiffres. Bon, je connais bien parce que c'est mes chiffres et voilà, je voulais juste faire une parenthèse là-dessus.
Ouais, bah, sympa. Bisous, Guillaume. Grosse bise, mec. Merci pour ton taf. Merci beaucoup. J'essayais de me connecter à Twitter, que je n'ai pas, pour récupérer des stats un peu atypiques de
Ah ouais, David, c'était
constance,
ouais.
de je sais tes maths. Et
Ouais.
je pense que je ne vais
Oh,
pas
on va s'en
réussir à me
servir.
connecter parce que je n'ai pas de compte. Voilà. C'est
Mince.
magnifique ce qui se
Il
passe.
faut que tu lui envoies un message pour qu'elle te dise.
Ouais. Non, mais précédemment, j'ai arrivé à me connecter. Et... Bon, bref. Anyway. Ça a été un petit peu en last minute, donc ça sera pour le prochain qui sera Roland Garros, ma foi. Qu'est-ce que t'en penses?
Yes, on est parti cette année. 2024 en stats.
Allez, c'est parti. On a fait le tour, un mot de la fin ou on est bon?
Bah, si tu veux un mot de la fin, on peut faire un mot de la fin.
Bah moi déjà, ça me fait plaisir de te retrouver pour un hors-série stats parce que c'est vraiment un contenu qui est demandé, qui est attendu, que les gens apprécient. Il y a une valeur de dingue à travers tous ces chiffres, ces données, ces analyses, qui est différent voilà, on le sait, hein, du simple ressenti, de l'intuition. Donc ça fait du bien. Ça permet une meilleure lecture aussi du jeu pour les passionnés qui suivent le tennis toute l'année. Donc ça, c'est top. Et puis c'est cool de te retrouver, de voir l'évolution aussi, d'où t'en étais, de comment tu vis le tour.
Ah bah t'es sur le tour maintenant, hein? Comment toi
Bah,
aussi tu
on
vis
y
le
est.
tour, hein? Je veux dire, on se voit maintenant sur beaucoup de tournois, hein? Donc
Ouais.
c'est ça, il y a une évolution pour nous deux, hein? Je te dirais, toi. Dans ta voix et moi dans la mienne, mais c'est vrai que ma voix, tu vois, avant de faire ce podcast, et aussi ce qui m'a fait que l'année passée, j'avais des doutes, c'est que je me dis, je suis tellement investi dans Edge, et ma partie d'Edge correspond, ne fait, c'est pas que de la stat, c'est du management, la réalité. Management d'experts, de certains coachs, de joueurs, de chapeauter un peu un énorme projet. Et je me dis encore des fois par moment, est-ce que je suis toujours au top dans la stat? Et ça me fait plaisir de voir que quand j'ai de nouveau des chiffres devant moi, eh ben, je me ranime comme avant. Donc aussi, je suis aussi content de faire ça, mais j'avais des doutes un peu. Est-ce que je suis encore à ce point dedans? Mais je continue d'évoluer dans la stat, hein. Mais je t'avouerai que par rapport au début, quand on a fait les premiers podcasts et maintenant, j'ai cette partie management qui me prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et je dois rester à niveau avec la stat et continuer de progresser. D'ailleurs, maintenant, avec la donnée automatique de Hawkeye que je commence à utiliser de plus en plus. Mais voilà, je suis content aussi qu'on refasse ces podcasts pour revenir à fond dans la stat parce que c'est quand même quelque chose que j'adore, quoi.
Et puis tu collabores avec Shane, qui est
Ouais.
un des numéro un, enfin des
C'est le
meilleurs
numéro un pour moi des
mondiaux.
data scientists. C'est le
Ouais, il
meilleur
est.
data scientist dans le monde du tennis, clairement. En tout cas,
C'est
de mon point de vue.
le deuxième Grand Chelem qui co-gagne du coup avec Sabalenka, c'est bien
Et
ça?
Sabalenka, ouais. Et il fait des. Bah, il est très bon, très investi, passionné. Bah, c'est là aussi qu'on a trouvé des traits communs par rapport. Tu sais, au début, on s'est connus avec Shane, les deux, on n'avait aucun client sur le tour. On était
Incroyable.
deux
Incroyable.
passionnés de stats avec des manières différentes. Moi, en tant que coach qui fait de la stat manuelle, et lui,
Ouais.
déjà, un data scientist qui essaye de récupérer de la stat automatique. Mais c'est vrai que maintenant, il y a aussi un revirement de la stat. C'est aussi une des raisons pour laquelle mon transfert chez Edge tombait à pic. C'est que la stat manuelle est en train de mourir, qu'on le veuille ou pas. Et la stat automatique est en train de prendre le lead. Donc, moi, je dois faire un transfert en stat automatique et Shane m'aide à le faire. Parce que ce n'était pas moi à la base. Voilà, j'étais un coach qui prenait des notes, qui faisait des stats et qui a fait une stat manuelle sur Excel.
Ouais, mais après, il faut bien préciser que c'est parce que sur le circuit, il y a des outils de dingue, le Hawkeye dont tu parlais, les chaînes de télévision qui s'y mettent un peu plus, les Fédé, les grands chelems qui fournissent leurs propres stats. Forcément, pour le commun des mortels, à savoir les auditeurs du podcast, on n'a pas accès à tout ça. Donc, nous, ce qui est chouette, c'est qu'on met quand même à dispo un outil manuel pour les parents de joueurs, les coachs, les joueurs eux-mêmes s'ils ont envie de le faire, mais sur le tour qui est en train voilà, de se structurer comme la société moderne qui avance au quotidien, mais maintenant il y a des outils de dingue en fait, c'est fou quoi.
Non, c'est clair. C'est clair. Et puis ça avance vite. Tu vois, quand tu trouves 2019, je commence avec la stat. 2024, on est déjà à la mort de la stat manuelle quasi. Par contre, dans ma stat manuelle, je retrouve quand même 70% de ce que j'ai envie de trouver. La stat automatique, elle me donnerait juste les chiffres d'une manière automatique. Et puis après, elle me rajoute des choses que je n'avais pas, comme les kilométrages, le spin, la rotation de la balle, les mouvements. Mais après, on a encore tellement exploré dans la stat automatique que pas tout a été fait. On est aussi au
Explore,
début.
explore, je te dis.
Ouais, mais il faut du temps. Et ce temps, bah, je recommence à me le prendre cette année, parce que grâce à cette collaboration, surtout avec Shane, parce que Shane collabore aussi avec Edge. Donc, c'est ça aussi qui fait
C'est quoi la suite pour toi, la prog, comme disent les vrais?
logiquement, rien tout le mois de février. Là, je suis en off, je suis en famille, en off et à Edge Neuchâtel, parce qu'on a notre centre à Neuchâtel où je dois les voir. Tu vois, pendant 3 semaines, j'ai vu personne de Neuchâtel. C'est tous les gens avec qui on bosse, quoi, on bosse tous ensemble. Je dois resuperviser un peu ce qui se passe là-bas. Donc ça, c'est février, passer du temps en famille et plus passer du temps avec Edge en Suisse. Et en mars, je pense aller à Indian Wells, Calif et début du Main Draw, parce qu'on a de plus en plus de joueurs de Edge maintenant qui sont aussi en Calif de Master 1000, parce que le Master 1000, tu sais, ils se sont ouverts. Donc il y a plus de personnes qui peuvent y rentrer. Et après, je pense mars, ce sera tout. Et après avril, on commence la saison terre battue, mec, hein, jusqu'à Roland.
Allez.
Avril, jusqu'à entre avril, mai, juin, juillet, on est en Europe et ça va être super intense. Donc là, le mois de février, on récupère.
T'étais sur un projet de coaching aussi en Amérique du Sud avec un jeune, c'en est où?
C'était pas en Amérique du Sud, c'était j'étais avec lui en Bulgarie et puis en Serbie sur des
Ah,
25 000. Et après, j'ai
ok.
fait le choix d'aller en Amérique du Sud parce que ça s'est terminé avec lui en fait. Après, j'étais aussi à Mulhouse avec lui. Non, c'est un jeune de Edge et lui, maintenant, il est en train de trouver de nouveau une structure. J'ai pensé à tort que je pouvais encore concilier coach. Alors, j'ai vraiment pensé avec le cœur parce que c'est un jeune qu'on a signé qui s'appelle Matej Dodik que j'adorais, autant tennistiquement qu'humainement. Et je me suis dit, j'ai pensé avec mon cœur, je me suis dit, allez, je peux le faire, je peux devenir coach en plus de mon mandat avec tous mes joueurs pour la stat et le management que je fais pour Edge, je peux faire ça en plus. Et après 2, 3 semaines, j'ai juste réalisé que c'était injouable.
Ah
Je
ouais.
ne peux pas. Bah déjà, là, j'ai deux emplois, quoi. Deux emplois quasi à plein temps. Donc, d'en rajouter un troisième, parce que d'être coach d'un joueur, je me suis aussi rappelé, finalement, coach d'un joueur, c'était tout le temps avec, quoi. T'es tout le temps avec pour des fois rien faire, c'est la réalité, mais t'es tout le temps avec. Et c'était dur pour moi de faire la part des choses, d'être avec lui, mais de devoir faire un meeting pour Edge, de devoir me faire des prépas de match. Je peux pas tout faire à la fois. Si j'avais que lui et pas Edge, ou que lui et pas la stat, oui. Mais là, ça me faisait la troisième chose et c'était en trop. Par contre, voilà, je l'ai fait parce que j'ai pas pensé avec ma raison, j'ai pensé avec mon cœur. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup et que j'espère un jour, on le verra dans le top 100. Et
Il est
là, je
combien
pense.
là?
Il est 500,
D'accord.
490. Et qu'on le verra. Bah, et quand il sera top 100, parce que j'espère fortement qu'il va y arriver, que je puisse être avec lui à ses côtés sur pas mal de tournois, un petit peu comme ce qui se passe avec Maria Timofeva, une fille de Edge qui fait quand même qualifier quatrième tour, ou Bah, on va indirectement, je vais l'avoir plus souvent sur le grand tour avec mes clients principaux. Et ça, c'est la suite logique, c'est que les clients de Edge deviennent des top joueurs, top 100, top 50, et puis qu'on puisse être, que je puisse passer plus de temps avec eux, mais pas en tant que coach.
Il a quel âge, l'animal? Le jeune?
Lequel? Matei?
Ouais.
19, je crois, 19 cette année.
Ok.
C'est du jeune. Mais il
Top.
y a déjà des bons dans son année de naissance. Il y a déjà des bons. Il y a Mensik, il y a Cheng,
Ah ouais.
et il y a Prismic. C'est sa génération.
Ça
Donc, tu vois, sa
envoie.
génération, il est numéro 8 ou 9.
Ok. Alright, mate. Merci beaucoup. C'était très
Eh, merci
cool.
à toi,
Fait
mate.
plaisir. Allez, mate. Ciao, mate.
Ciao, mate.
Allez, la bise, ça va bientôt. Ciao, ciao.
À bientôt, ciao, ciao.
Salut.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.